Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France. Il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. Lettre de Bonaparte au comte de Provence en 1800.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Louis Stanislas Xavier de Bourbon est le troisième petit-fils de Louis XV. Il est le frère cadet de celui qu'allait devenir Louis XVI. Il est né en 1755 à Versailles et vit donc dans le cadre de la cour de son grand-père. En 1771, jeune, à l'âge de 16 ans, il épouse la princesse Marie-Joséphine de Savoie. Au moment où son frère devient souverain, en 1774, le comte de Provence, puisque c'est le titre officiel que celui-ci porte à la cour, souhaiterait jouer un rôle politique. C'est une personnalité intelligente, cultivée, très significative de ces princes des Lumières. On a dit, sans trop pouvoir le prouver d'ailleurs, qu'il avait adhéré à la franc-maçonnerie. Il est assez volage et un brin libertin. Bref, il est assez typique de ces grands aristocrates du XVIIIe siècle. Il joue un rôle d'influence politique dans la mesure où, il est vrai, il participe à la chute des ministres Turgot, Necker, Calonne. Mais en fait, il défait plus qu'il ne fait. Il aurait voulu jouer un rôle politique plus actif, mais son frère s'est toujours refusé à lui donner une place importante au sein même du Conseil. Il a demandé, par exemple, aussi d'être gouverneur du Languedoc. Et d'ailleurs, il viendra à Toulouse en 1777, où il sera reçu avec tous les honneurs dus à son rang par l'Académie des Jeux Floraux. En 1788, alors que la monarchie rencontre de plus en plus de difficultés à gérer le royaume, il accepte lors de l'Assemblée des Notables le vote du doublement de la représentation du tiers-État. Arrivent les événements de l'été 1789. Comme tout un chacun à Versailles, il est quelque peu surpris. Lorsque la famille royale rentre à Paris le 6 octobre 1789, le comte de Provence s'installe au petit Luxembourg. Il souhaite également, comme son frère, essayer de partir. De partir pour échapper à l'influence qu'il juge délétère de la Révolution. Le 20 juin 1791, alors que son frère, le roi Louis XVI, part vers la Lorraine et sera finalement arrêté à Varennes, le comte de Provence réussit, caché sous une fausse identité d'un homme d'affaires anglais, à traverser la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire la Belgique. Ce qu'il ignore encore, en cet été 1791, c'est qu'il ne reverra pas la France avant près d'un quart de siècle. Car effectivement, les aléas de l'histoire de la Révolution, le consulat, l'Empire, vont bien sûr lui interdire tout retour. Après quelques temps aux Pays-Bas autrichiens, il va entamer une espèce d'errance en Allemagne, à Koblenz, puis on le retrouve à Vérone en 1794. Il part pour Mito dans l'Empire russe, dans les pays baltes, en 1796. Il va ensuite résider à Varsovie entre 1801 et 1804. Et finalement, il va se retrouver en Suède, à Kalmar, pour rejoindre, sous la simple identité du comte de Lille, l'Angleterre en 1807. C'est vraiment le périple d'un proscrit, d'un exilé, qui n'a a priori plus de perspective politique. Mais ce qu'il faut bien comprendre avec celui que l'on va appeler Louis XVIII à partir de 1795, c'est que le comte de Provence n'a jamais douté de ses droits et de sa légitimité. Il a toujours estimé qu'il était la souveraineté et la légitimité du pouvoir. Que l'histoire de la France se confondait finalement avec sa maison et que donc, même en exil, il restait un prince de la maison de France. Il est par exemple significatif que, quand il apprend l'exécution de Louis XVI eh bien, il se proclame régent du royaume. Effectivement, en cas de mort de Louis XVI, si la monarchie avait été toujours au pouvoir à ce moment-là, il aurait été sans doute le régent du royaume. De même, quand en 1795, le petit Louis XVII meurt dans la prison du Temple, eh bien, son oncle va se proclamer immédiatement roi de France. On perçoit bien, là comme à l'exil, qu'il a un sens de sa responsabilité historique, de la légitimité historique qu'il représente, et finalement de sa dignité, de la dignité de celui qui s'estime, à partir de 1795, comme étant le roi de France. Il convient aussi d'observer quelles ont été les évolutions de celui qui se proclame désormais Louis XVIII. Évolution il y a eu, effectivement, parce que quand on lit la déclaration de 1795, quand il monte finalement sur le trône, même si évidemment c'est pour l'instant un trône quelque peu fictif, il annonce sa volonté de rétablir la monarchie telle qu'elle était au moment de la Révolution de 1789. Il y a donc une volonté chez Louis XVIII de rétablir une monarchie de type Ancien Régime. Mais l'homme est intelligent. Il comprend les situations et il comprend au fur et à mesure des années qu'il est totalement illusoire de vouloir revenir à 1789. Aussi, en 1804, au moment où Bonaparte devient Napoléon, empereur des Français, il va faire publier, et environ 10 000 exemplaires seront distribués en Europe, une déclaration imprimée à Hambourg où il annonce qu'il reconnaît une partie des acquis de la Révolution. Il promet une amnistie entière pour tous les votes antérieurs à 1804. Il s'engage à conserver chaque Français dans leur grade, leurs emplois, leurs pensions. Il garantit les libertés individuelles et collectives et l'égalité des Français devant l'impôt et devant la loi. Il promet également de maintenir toutes les propriétés. Ça veut dire que, en 1804, il accepte, par exemple, que les personnes qui ont acheté pendant la Révolution des biens nationaux, confisqués soit à l'Église, soit à des nobles émigrés, eh bien, soient maintenus dans leurs nouveaux propriétaires. C'est une manière, finalement, de rassurer une partie de la bourgeoisie et de la paysannerie aisée qui ont pu acquérir ces propriétés. Mais par contre, si, effectivement, il admet une partie de l'héritage révolutionnaire, il affirme dans sa déclaration de 1804 tous ses droits. Voici un extrait de cette déclaration. Au sein de la mer Baltique, parce qu'effectivement il se trouvait à ce moment-là sur les bords de la mer Baltique, en face et sous la protection du ciel, fort de la présence de notre frère, de celle du duc d'Angoulême, notre neveu, de l'assentiment des autres princes de notre sang, qui tous partagent nos principes et sont pénétrés des mêmes sentiments qui nous aminent, nous le jurons. Jamais on ne nous verra rompre le nœud sacré qui unit nos destinées aux vôtres, qui nous lie à vos familles, à vos cœurs, à vos consciences. Jamais nous ne transigerons sur l'héritage de nos pères. Jamais nous n'abandonnerons nos droits. Français, nous prenons à témoin de ce serment le Dieu de Saint-Louis, celui qui juge toutes les justices. Donc, évolution dans la pensée de Louis XVIII, mais maintien de sa légitimité. Et ce qui est assez extraordinaire, d'ailleurs, alors que, au fur et à mesure des années, des succès de la Révolution, du Consulat, puis de l'Empire napoléonien, les perspectives s'amenuisent d'un retour au pouvoir, ou même tout simplement d'un retour en France, eh bien, Louis XVIII ne cesse d'affirmer sa légitimité. Quand on lui annonce, par exemple, en 1811, que l'empereur des Français, Napoléon, vient d'avoir un fils, ce qui évidemment fait que Napoléon, a priori, a un successeur pour le trône de France, il estime que, de toute manière, le jour où la divine providence le souhaitera, eh bien, toute cette construction s'effondrera. Il faut avoir, notons-le, un certain tempérament, parce qu'en 1811, l'Empire apparaît à son apogée, lui n'est finalement qu'un proscrit toléré sur le sol britannique, vivant entouré de quelques conseillers, de quelques fidèles, car la noblesse ou les émigrés qui étaient partis sous la Révolution sont bien souvent rentrés en France, dans la mesure où Bonaparte a accordé en 1802 une très grande amnistie qui a permis à bien des nobles qui avaient quitté le royaume de rentrer finalement en France. Alors la restauration de Louis XVIII se fera évidemment selon des perspectives qu'il ne pouvait entrevoir en 1811. C'est l'effondrement militaire, mais aussi des cadres administratifs et politiques de l'Empire en 1814 qui vont lui permettre de rentrer. Et il va fouler à nouveau le sol français en avril 1814. Il aura d'ailleurs à ce moment-là une remarque très typique de son état d'esprit. Effectivement, lorsqu'il foule le sol français, qu'il n'avait pas touché depuis son départ de 1791, nous sommes à ce moment-là en Normandie, eh bien, un de ses conseillers, en pleurs de joie, vient le voir et lui dit « Sire, vous voici enfin roi de France ». Et Louis XVIII de lui répondre « Mais ai-je jamais cessé de l'être ?»